choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Bonjour.
Bonjour à tous, à toutes.
Bonjour.
Elle est là, et bien là.
Donc, Jérôme, Romain, Patrice, pour vous servir.
Pour la Ligue des droits de l'homme.
Et on va commencer par vous lire l'éditorial de notre présidente, Françoise Dumont, qui revient sur les droits qui sont au croisement des batailles, un sujet parfaitement d'actualité. L'actualité législative aurait de quoi donner le tournis, tant l'impression qu'une bataille chasse l'autre peut nous saisir. Réforme constitutionnelle, projet de loi contre le terrorisme, projet de loi El Khomri, trois textes proposés en seulement 3 mois, alors que de manière différente, ils touchent à des fondamentaux du socle républicain. Jusqu'où ira le projet de réforme constitutionnelle ? Bon, on le sait maintenant, il est mis de côté, il est couvert, donc c'est pas trop la peine d'en reparler. Il n'y aura certainement pas de congrès et le projet de réforme, plus personne n'en parle.
Non, absolument, oui.
L'Assemblée, le projet de réforme constitutionnelle n'avait pas encore été examiné, que déjà l'Assemblée nationale devait se prononcer sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cette loi viendra compléter l'empilement des multiples réformes opérées depuis 30 ans dans les domaines du champ pénal et de la sécurité intérieure. Au fond, la logique gouvernementale est toujours la même, la simple invocation d'une plus grande efficacité contre le terrorisme, objectif que tout le monde partage, devrait justifier l'adoption de mesures attentatoires aux libertés après une discussion menée sous le coup de l'émotion et au pas de charge. La procédure d'urgence utilisée pour faire adopter cette loi n'a pas permis à la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, de mener de manière efficace sa mission consultative de gardienne des libertés et des droits fondamentaux, et elle a dû se contenter dans un premier temps de formuler des remarques sur certaines dispositions. Ces manières de faire pour lutter contre le terrorisme constituent autant d'incitations à nous replier dans une démocratie restreinte, à nous confiner derrière les libertés surveillées. Nous refusons ce mode de gouvernement. Nous voulons au contraire faire vivre nos droits, user de tous nos droits, y compris celui de questionner les décisions d'un gouvernement qui a conservé 26 services chargés de lutter contre le terrorisme et qui a choisi de s'en remettre à la surveillance de masse plutôt que de renforcer un véritable travail de terrain.
Oui, c'est très important. Et nous, à la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, on met en garde contre tout amalgame, tout risque de stigmatisation des jeunes des quartiers, des populations musulmanes. Et récemment, dans le journal Le Monde, notre source de référence préférée, un sociologue important qui est Renaud Epstein, spécialiste des quartiers, dans un entretien au Monde du 31 mars 2016, donc, soulignait l'importance d'éviter donc, la stigmatisation des quartiers. Voilà ce qu'il indique notamment, hein, que les frontières entre réseaux criminels et réseaux terroristes soient poreuses et qu'ils recrutent dans des quartiers concentrant des difficultés sociales, ne serait justifié qu'on fasse peser la suspicion sur les millions d'hommes et de femmes qui y résident. Interrogeons-nous plutôt sur les politiques menées en direction de ces quartiers. Le tissu associatif qui les faisait tenir est fragilisé par les coupes budgétaires. La prévention spécialisée a été abandonnée. La police de proximité a disparu. Alors, à la Ligue des droits de l'homme aussi, on se pose la question, bien sûr, il y a tout un débat sur le communautarisme et l'universalisme. Nous, bien sûr, nous défendons l'universalisme, bien évidemment, l'universalité des droits pour tous. Bien évidemment, les jeunes également, d'origine musulmane notamment, s'organisent souvent dans des organisations, dans des associations spécifiques. On parle de plus en plus de communautés musulmanes. Nous, le risque de dérive communautariste, hein, cette tendance à s'enfermer entre soi pour défendre des droits privilégiés, en quelque sorte, spécifiques. Et Renaud Epstein, donc, sur ce plan, souligne, je le cite, « Des musulmans, le plus souvent des noirs et des homosexuels, parfois, sont accusés de communautarisme. Mais il ajoute donc que des groupes victimes d'exclusion et de stigmatisation s'organisent et se mobilisent devraient être perçus positivement. Si on veut vraiment lutter contre la délinquance et la radicalisation dans des quartiers où les structures d'encadrement de la jeunesse ont périclité, l'existence d'un tissu associatif communautaire doit être vue comme un atout et non comme un problème. Bon. Mais bien évidemment, Renaud Epstein met l'accent tout particulièrement, je le cite, sur l'insistance sur la lutte contre la radicalisation et l'absence persistante de politique de lutte contre les discriminations. Tout ceci, cette absence de politique efficace, finalement, en direction qui vise à traiter les problèmes de ces quartiers, c'est bien la source des problèmes plus généraux et plus dangereux que constitue le terrorisme. Il y a un terreau fertile, on pourrait dire. Voilà, donc c'était la prise de position de Renaud Epstein que nous avons évoquée aujourd'hui.
Je reviens sur la loi troisième, sur le... donc la loi travail. Donc je reprends l'éditorial. Quant à la loi travail, l'exécutif a bien du mal à convaincre du bien fondé de l'ensemble du projet, même si les corrections apportées avant même sa présentation au Conseil des ministres ne sont pas négligeables. La méthode, là aussi, en dit long. Après avoir une fois de plus agité la menace du 49-3, le Premier ministre, pourtant champion du passage en force, a dû venir reconnaître à la télévision les ratés de sa méthode et faire quelques concessions. Sur le fond, pourtant, la philosophie générale du texte ne bouge pas et il continue de promouvoir un système social d'essence 100% libéral. Ce qui ne laisse pas d'étonner dans cette histoire, c'est l'imprévoyance et même l'inconscience de l'exécutif, comme s'il n'avait pas vu venir la mobilisation, les manifestations du 9, du 15, du 30 mars, le sens d'une pétition signée en quelques jours par plus d'un million de personnes. Ce qu'il refuse aussi de voir, c'est la colère de tous ces jeunes qui se sentent dans une impasse avec une vie professionnelle rythmée par les visites à Pôle emploi et des galères où s'enchaînent des stages. Drôle de façon pour François Hollande de montrer qu'il a fait de la jeunesse une priorité comme il l'avait annoncé au Bourget. Comme toujours, certaines voix n'ont pas manqué d'invoquer la manipulation dont ces jeunes feraient l'objet, comme si ces derniers ne vivaient pas la précarité au quotidien et ne percevaient pas tous les dangers de régression sociale que ce projet de loi contient.
Cette loi ressemble beaucoup à une arnaque, en fait, à quelque chose qui on nous fait miroiter. Beaucoup de choses, on va encore dégrader les conditions de travail et c'est peut-être le moment d'écouter la bande originale du film L'Arnaque.
Internationale, puisqu'on sait aujourd'hui que, d'après des estimations, des enquêtes effectuées, les trois quarts des emplois créés aussi bien aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ce sont des emplois précaires. Donc il y a une tentative aujourd'hui de précarisation du monde du travail, une précarisation, j'allais dire, durable. Ça semble être un fait acquis pour une bonne partie du patronat, et je pense qu'il est temps de se mobiliser. Et la Ligue des droits de l'homme elle-même s'est mobilisée, puisqu'elle a publié un communiqué le 8 mars intitulé « Défendons les droits économiques et sociaux ». Donc, je vais vous en lire un petit extrait. « Pour la Ligue des droits de l'homme, les droits économiques et sociaux sont constitutifs des droits de l'homme, au sens large, comme les droits civils et politiques. En effet, et pour ne s'en tenir qu'aux grandes généralités, le projet présenté permet dans plusieurs domaines, relatifs à la durée du travail et au congé, la mise en place de règles décidées unilatéralement par l'employeur. Dans les faits, cela risque d'aboutir à élargir l'écart entre les droits fondamentaux énoncés dans l'ordre public et la réalité de leur application. Ce risque est d'autant plus grand que le projet met en avant l'accord d'entreprise plutôt que l'accord de branche. Le projet, là encore, de façon très générale, met en avant les difficultés économiques de l'entreprise pour abaisser les droits, plafonner les dommages et intérêts en cas de licenciement économique, sans cause réelle et sérieuse. Ou en cas de licenciement pour inaptitude, il réduit également la possibilité de saisir la justice sur l'application des accords collectifs. Dans le prolongement de lois votées depuis 2008, ce projet de loi de réforme du Code du travail vise à réduire les droits économiques et sociaux des citoyens en tant que travailleurs salariés. Bref, c'est un projet de réduction des droits et même de stigmatisation des droits, puisqu'on implique que ces derniers seraient en fait la cause des difficultés de l'entreprise et du chômage. Ignorant les progrès du droit européen, pourtant applicable en France, le texte ne respecte même pas les principes essentiels qu'il fait pourtant figurer en titre préliminaire. Donc la LDH refuse l'opposition entre le droit au travail et le droit du travail et réclame depuis longtemps une véritable sécurisation des parcours professionnels ainsi que l'effectivité de la charte des droits sociaux.
Bravo.
Alors, dans le cadre des mobilisations contre la loi du travail, les violences policières se multiplient, défraient la chronique. Vis-à-vis des lycéens notamment. Et il y a du nouveau puisque la police va enfin recenser les cas de violences policières. Alors, c'est un article paru dans Le Monde le 7 avril, un article de Julia Pasquale. La décision a été suffisamment novatrice pour être soulignée. La police nationale va mettre en place un outil statistique afin de mesurer, enfin, les violences perpétrées par ses fonctionnaires. Dans un courriel envoyé le 1er avril à toutes les directions centrales, donc ce n'est pas une blague, dont Le Monde a obtenu une copie, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, annonce que la décision a été prise de créer, je cite, « la décision a été prise de créer un outil recensant par convention les blessures sérieuses, les blessures graves et les décès de particuliers survenus à l'occasion ou à la suite de l'exercice des missions de la police nationale. Cet outil sera géré directement par la police des polices et alimenté en temps réel par le service. » Alors cette innovation intervient dans un contexte particulier. Le 14 mars, la publication du rapport L'ordre et la force, c'est le nom du rapport, par l'ONG française de la défense des droits de l'homme Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, a bénéficié d'une importante couverture médiatique. Cette étude de 100 pages, centrée sur 89 cas de blessures graves survenues entre 2005 et 2015 et ayant entraîné la mort pour 26 d'entre eux, quand même, dressait un constat sévère. Elle épinglait notamment l'opacité criante des autorités qui ne communiquent absolument pas sur le nombre de personnes blessées ou tuées dans le cadre d'opérations de police et ou de gendarmerie. Donc, une première enquête de l'IGPN a d'ores et déjà abouti au renvoi d'un gardien de la paix devant le tribunal correctionnel. Il sera jugé en mai pour répondre des faits de violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Ce membre d'une brigade de police secours du 19e était apparu sur une vidéo. Il portait un coup brutal à un lycéen de 15 ans, pourtant déjà immobilisé par deux autres policiers. Pour le lycéen, cela s'est soldé par une fracture du nez et 6 jours d'interruption totale de travail. Donc de lycée. Dès la diffusion de la vidéo, le 24 mars, le ministre de l'Intérieur s'est dit choqué par ces images. Signe que les autorités souhaitent jouer la carte de l'apaisement. Une volonté à interpréter à la lumière d'une mobilisation sociale qui continue d'être le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. À la lumière aussi du rôle croissant de la vidéo dans la dénonciation et la prise de conscience des violences policières. Bon là c'est vrai qu'on peut mettre en perspective avec l'actualité américaine et ces vidéos prises par des particuliers dans le cadre de policiers qui tirent sur des jeunes noirs souvent.
Ce qui avait fait pleurer Obama.
Tout à fait. Mais du coup, l'utilisation de la vidéo, notamment de téléphone, permet de constituer des preuves de ces exactions. Donc, il est dans la parfaite continuité du précédent, estime Aline Delière, auteure du rapport de la CAT. L'augmentation de l'usage des armes dites non létales, mais qui mutilent, est continue. Une partie de la population attendait certainement autre chose. Alors, Christiane Mouhana renchérit. Le bilan est mauvais, surtout si l'on regarde les réflexions menées par le Parti Socialiste avant d'accéder au pouvoir, notamment sur le rétablissement de la police de proximité. On peut seulement dire qu'il y a un peu moins d'hystérie sur les chiffres. Oui, tout cela se passe à l'aune d'un quinquennat dont le bilan en la matière n'est pas très reluisant. La volonté de tenir et de publier des chiffres sur les violences policières peut s'avérer une opération gagnante. Cet effort de transparence s'inscrit dans une nouvelle direction prise par l'IGPN depuis qu'elle a été confiée en septembre 2012 à Marie-France Monéger. Cette montée en puissance de l'institution, auparavant considérée comme une sorte de placard, porte sa signature. La gestion proactive de plusieurs affaires de corruption, la possibilité pour les particuliers de saisir directement l'IGPN, ou encore la tenue depuis 2013 de conférences de presse annuelles présentant les rapports d'activité a relancé l'inspection. Donc une évolution vers plus de transparence, aussi lente et imparfaite soit-elle, souligne le sociologue, Cédric Moreau. Si des chiffres sont publiés, il faudra être méfiant quant à la façon dont la police les fait parler. Voilà pour les violences policières.
Très bien. Moi, j'en profite pour rappeler que demain, justement, sur la loi El Khomri, vous avez une manifestation à Montpellier organisée à 10h30, place Zeus, qu'on se le dise.
Oui.
Place Zeus, à Antigone, c'est quartier Antigone, on s'en doutait un petit peu. À Montpellier, donc demain, 10h30, manifestation. Voilà.
On viendra avec nos drapeaux et nos badges. Hein.
Nous viendrons. Nous serons présents.
Vous pouvez saisir l'IGPN si ça tourne mal.
Alors, ces débats centrés sur le vote de nouvelles lois ont presque occulté la question des migrants.
Oui.
Et pourtant, à Calais, en dépit des déclarations apaisantes de l'exécutif, les bulldozers ont tenu lieu de politique sans que soit proposée aux migrants une véritable alternative. Les containers ne sont que des cabanes de chantier où l'on ne peut qu'être couché ou debout, sans possibilité de faire la moindre cuisine. Quant au centre d'accueil et d'orientation, les CAO, bientôt fermés, ne seront que des solutions à court terme. De son côté, l'Union européenne s'apprête à repousser les réfugiés hors de ses frontières et à sous-traiter ses obligations à la Turquie. Une façon comme une autre de revenir à ses fondamentaux en matière de mise à distance des demandeurs d'asile. Elle entend faire feu de tout bois avec l'arsenal juridique à sa disposition, au mépris des droits fondamentaux et d'une convention de Genève bien peu défendue par le Haut-Commissariat aux réfugiés. L'actualité, on le voit, montre combien nous allons devoir être pugnaces pour faire face aux difficultés qui entravent l'application des droits, de tous les droits. Tout indique que le débat public est déjà entré dans une phase extrêmement confuse, où les repères en termes de positionnement politique sont de moins en moins évidents. Cette période et les tâches qu'elle appelle supposent de notre part un énorme engagement à nous y faire face à partir de ce que nous sommes et de la richesse de notre démarche associative.
On va mettre un petit peu de musique éthiopienne d'origine jazz éthiopien. C'est le groupe Etioda, je tiens à préciser, le groupe Etioda, un groupe montpelliérain qui fait une reprise, donc un morceau de jazz éthiopien, musique à oui.
Très joli, très, très agréable en tout cas.
Super.
Ouais. Alors j'aimerais vous lire l'éditorial du Monde du mardi 5 avril, toujours notre source.
Privilégié.
Privilégié. L'éditorial s'appelle Le tournis, le vertige et la nausée, éditorial de Jérôme Fenoglio. D'abord, il y a les chiffres, à donner le tournis. Les Panama Papers constituent une étape marquante dans l'histoire de la coopération des organes de presse internationaux pour éclairer les mécanismes opaques des paradis fiscaux. Un basculement de l'investigation dans l'ère du big data. Jamais Enquête n'a rassemblé autant de journaux du monde entier pendant 9 mois en toute discrétion. Près de 11,5 millions de documents internes du cabinet Mossack Fonseca, l'un des champions mondiaux au Panama de la domiciliation de sociétés écrans, ont été obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation, le ICIJ, et analysés par 107 médias dans 76 pays du monde entier, dont Le Monde. Ce travail portait sur plus de 214 000 entités offshore créées ou administrées par Mossack Fonseca en près de 40 ans dans 21 paradis fiscaux différents et pour des clients issus de plus de 200 pays. Il y a le tableau d'ensemble à donner le vertige. La révélation des Panama Papers vaut avant tout pour cette carte la plus complète et la plus à jour. Ces dernières données remontent à quelques mois que l'on n'ait jamais pu dresser d'un pan entier de la finance mondiale, jusqu'alors protégée des regards. S'y mêlent les flux d'argent propre et d'argent sale, les eaux grises issues de la fraude fiscale et celles noires qui proviennent du crime, des trafics, de la corruption et des abus de pouvoir. Il reste ainsi une vue en coupe inédite de la mondialisation, un relevé très précis des failles souterraines qu'il avoue, tôt ou tard, si rien n'est fait à l'effondrement. La plus dangereuse de ces failles, c'est le soupçon. On pourra toujours continuer de s'offusquer du complotisme ambiant, déplorer les rejets des élites et la montée des populistes. Rien ne sera crédible tant que persistera cette institution qu'une infime part de l'humanité s'exonère en cachette des devoirs communs et de l'intérêt général. On pourra toujours débattre de ce qui est légal, immoral ou illicite dans les structures offshore. Aucun distinguo ne sera audible tant qu'il sera recouvert par ce sentiment d'injustice nourri par l'avidité de quelques-uns. Le chemin semble encore long. Les déclarations optimistes de ces dernières années sont encore très éloignées de la réalité dévoilée par les Panama Papers. Le nombre des pays qui, malgré, bon gré mal gré, se sont résolus à renoncer à une partie de leurs secrets a toutefois augmenté. Mais ces bonnes résolutions resteront vaines tant qu'un petit nombre de nations se déroberont à l'effort collectif. Alors, j'aimerais, dans ce cadre-là, vous parler des effets collatéraux, puisqu'il est le Premier ministre islandais a donné sa démission, vous le savez, et déclenchant un vide politique important en Islande, puisqu'à la suite de la crise de 2009, l'Islande avait déjà été fortement secouée. Alors l'Islande, c'est 300 000 habitants. Je tiens à rappeler que ce n'est pas beaucoup de monde.
Oui, bah, tu sais, les Panama Papers, c'est un gros millier de personnes.
Oui, voilà.
Essentiel. Enfin, en France.
Mais qui possède combien de pourcents de la richesse mondiale?
En France, oui.
Alors, le parti pirate connaît un regain de popularité en Islande dans ce contexte. Il revient sur le devant de la scène. En Islande, pays secoué par la crise politique depuis la révélation des Panama Papers, le parti ne cesse de réclamer des élections anticipées. Et si ce vote devait avoir lieu, la formation serait bien placée pour l'emporter. Crédité de 43% des intentions de vote.
Impressionnant.
Pour mémoire, en France, elle fait maximum 1%. Le parti pirate est largement en tête des sondages. La popularité du piratar, donc en islandais, augmentait depuis quelques mois déjà, mais elle a nettement cru avec la colère née des révélations des Panama Papers impliquant le Premier ministre, puisque ces dernières semaines, le parti oscillait déjà entre 25 et 35% d'intention de vote. Alors, c'est quoi le parti pirate? Alors, le mouvement pirate a été lancé en 2006 par le Suédois Rick Falkving, qui a lancé un appel à fonder des partis pirates. Alors, les partis pirates sont désormais présents dans 41 pays. Ils se revendiquent comme des incarnations politiques de la liberté d'expression et essaient d'atteindre leur but au sein du système politique établi plutôt que par l'activisme. Résume le Parti Pirate International qui regroupe les formations du monde entier. Alors, il milite pour, je cite, la protection des droits de l'homme et les libertés fondamentales à l'ère numérique et sont ainsi pour le libre partage des données et une réforme en profondeur du droit d'auteur. En France, la création du Parti Pirate remonte aussi à 2006. Alors, que propose-t-il? En Islande, le Parti Pirate propose de commencer par un mandat court, je cite, un an maximum pour réformer en profondeur le régime, puis organiser un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir que l'Islande n'est pas membre de l'Union européenne, appartient à l'espace Schengen néanmoins, et a des accords commerciaux, notamment autour de la pêche, qui est leur principale source de revenus. Pardon pour cette digression.
Importante, malgré tout.
Voilà. Explique sa dirigeante, Brigitta Jones-Dottir dans un entretien au Monde. Il faut absolument que les députés retrouvent le pouvoir d'écrire la loi qui, aujourd'hui, se trouve trop souvent entre les mains des ministères. Alors, en France, le parti défend notamment le non-cumul des mandats, une meilleure transparence de la vie politique, demande la fin de l'état d'urgence et s'oppose au projet de loi El Khomri sur la réforme du droit du travail et réclame un meilleur contrôle des données personnelles ou encore une limitation de la vidéosurveillance. Bon, vous avez compris pourquoi je parle de ce parti, parce qu'il est assez proche de nos positions. Globalement, le PP donc, défend les droits de liberté fondamentaux, les droits et libertés fondamentaux et veut libérer l'accès à la culture et au savoir et lutter contre les monopoles privés et les systèmes de brevets. Résume les pirates. Alors, ça a un poids assez faible dans les autres pays d'Europe, notamment en France, où le parti pirate ne dispose d'aucun élu. 101 candidats s'étaient présentés aux législatives de 2012, mais ont obtenu des résultats modestes. Et seuls 25 d'entre eux ont franchi la barre des 1% des suffrages exprimés. Bon, on est loin des 43% islandais.
C'est impressionnant.
Oui, mais est-ce qu'on les retrouve dans la nuit debout, ces gens-là?
Je ne sais pas encore, mais la nuit debout, samedi soir, à Montpellier, il y aurait un appel lancé à partir de 17h30, place de la Comédie, à une nuit debout Montpellier-Rennes. Okay. On verra ce que ça va donner. Mais il y a un parti pirate qui a été en Allemagne, qui avait des bons sondages à un moment, et puis il n'a pas fait un bon score finalement. C'est retombé, malgré les bons sondages à une certaine époque, donc parti pirate.
Oui, c'est génial.
Ça boue dans la marmite.
Ça boue dans la marmite.
Ouais, ils ont eu des bons résultats dans 4 Länder, apparemment.
Ouais. Ah oui, 4 Länder, ouais, sûrement. Ouais. Et sinon, il y a une ONG aussi sur la question de la transparence financière. Il y a une ONG qui s'appelle Peuple Solidaire, qui a lancé, c'était juste avant les Panama Papers, les révélations, une pétition en ligne, dont je vais vous lire l'appel. Dans le monde, 663 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 57 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Or, si les pays dits pauvres, mais parfois riches en ressources, n'ont pas les moyens de financer les services publics les plus essentiels, c'est notamment parce qu'ils perdent chaque année plus de 180 milliards d'euros en raison de l'évasion fiscale des multinationales. Dans les prochaines semaines, le projet de loi Sapin relatif à la lutte contre la corruption et la transparence de la vie économique va être étudié au Parlement français. Dans le même temps, des négociations sont prévues au niveau européen sur l'application de mesures de transparence sur les activités des multinationales. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est d'actualité. Donc, dans cette pétition en ligne, eh bien, c'est exiger la transparence fiscale des entreprises multinationales, interpeller Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics, et exiger de réelles mesures de transparence fiscale qui permettent aux pays en développement, mais aussi aux journalistes, aux ONG et aux citoyennes et citoyens, de savoir si les entreprises paient la juste part d'impôts qui correspond à leurs activités dans tous les pays. Voilà une exigence essentielle.
L'argent.
Toujours, qui mène le monde.
On écoute Goldfinger.
De l'argent et de l'or.
A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in.
Et c'est là, sur cette musique, que Manuel Valls apparaît avec un communiqué d'un collectif qui s'appelle Trop c'est trop, et dont je vais vous lire, qui a été publié le 10 mars. Nous sommes profondément choqués par les propos du Premier ministre Manuel Valls, qui a affirmé le 7 mars, lors du dîner du CRIF, que l'antisionisme est tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Il a repris des accusations de Benjamin Netanyahou, prétendant que ceux qui critiquent sa politique de colonisation des territoires palestiniens occupés en 1967 sont des antisémites. Manuel Valls a aussi stigmatisé l'antisémitisme dans les quartiers populaires d'une jeunesse radicalisée, faisant écho aux propos l'an dernier du président du CRIF qui attribuait toutes les violences antisémites en France aux jeunes musulmans. Cette accusation à l'emporte-pièce, comme l'assimilation de tout antisionisme à de l'antisémitisme, par lesquelles Manuel Valls cherche à imposer à la France des conceptions très personnelles sont inadmissibles. L'existence d'un mouvement juif, antisioniste a marqué l'histoire du judaïsme européen au XXe siècle. En l'ignorant, Manuel Valls se fait manipuler par les gouvernants israéliens qui cherchent à cacher l'existence de cet antisionisme. L'antisionisme est une position politique qui n'a rien à voir historiquement et conceptuellement avec le racisme anti-juif, même si certains courants masquaient leur antisémitisme par le recours à un langage antisioniste. Ces déclarations sont un poignard dans le dos des mouvements anticolonialistes israéliens, affrontant aujourd'hui dans des conditions de plus en plus difficiles l'expansionnisme colonial du gouvernement Netanyahou qui les accuse de faire le jeu des antisémites. Confondre antisionisme et antisémitisme conduit à criminaliser des positions politiques comme celle de la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Cela revient à interdire tout débat sur la question israélo-palestinienne et son histoire. Donc ce communiqué est signé notamment par Sophie Bessis, Alice Cherki, Suzanne Citron, Mohamed Harbi, Gilles Manseron, Véronique Naoum-Grapp et Bernard Ravenel. Voilà un communiqué que nous soutenons à la Ligue des droits de l'homme.
Et qui montre bien que nous sommes fondamentalement en accord avec BDS.
Oui, sur cette question, absolument. Voilà. Nous allons nous quitter pour ce mois-ci, voilà, et au mois prochain, donc.
À très bientôt.
À la prochaine.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.